là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Bonsoir, c'est Grégoire. Chaque semaine, sur les collègues Garrigues, en Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Grégoire, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et bien, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, le comité d'Unco Sissoko, ne tournons pas la page, a organisé samedi dernier une rencontre au niveau des mineurs isolés étrangers, qu'ils soient de Reims, de Chalon, mais aussi de Lille. Et voilà, ça a été un succès, on peut le dire, puisque je pense qu'il y a eu au moins une bonne cinquantaine de mineurs isolés étrangers au total, plus pas mal de soutien. Je pense qu'il y a eu plus de 120 personnes qui sont passées. J'en suis quasiment persuadé quand on sait le nombre de gens qui ont pu manger après le couscous. On était déjà 60 et il y a bien la moitié qui était partie. Donc voilà. Alors je pense que ça a été très riche, vraiment très riche au niveau des échanges entre jeunes, des échanges aussi entre nous. Qui sommes en solidarité avec eux. Il y a peut-être des choses à dire, alors allez-y, aidez-moi.
Ben en fait, oui, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que le collectif qui est venu de Lille était extrêmement motivé, qu'ils avaient envie de communiquer avec d'autres, comment on pourrait dire, d'autres camarades qui connaissent des situations similaires. À la différence près que ce collectif, on en a parlé souvent, c'est le collectif des Hauts-Lieux qui a une histoire forte de résistance à ce qu'ils subissent et d'action pour sortir de leur leurs conditions de vie difficiles, qu'ils ont une pratique collective, on en a déjà parlé également, ils ont des interventions radio, à la radio, ils fabriquent un petit journal, ils font des communiqués régulièrement avec leur soutien, bien évidemment. Et donc, ces gens qui sont arrivés étaient super motivés, et c'est la rencontre, quand tu parles de rencontre, c'est vraiment ça, avec un milieu finalement qui un autre groupe de personnes, que ce soit Chalon, mais surtout Chalon, qui sont un peu confinés dans un univers assez répressif, déjà au niveau du milieu de vie, le fameux SAMI qu'on a dénoncé une multitude de fois, sa pratique d'encadrement qui n'en est pas une, qui est une pratique de tri et qui est une pratique, oui, néo-répressive, on peut dire, à leur égard, puisque tous les jours il y a des conditions de vie qui leur sont faites, qui sont soit menaçantes, soit d'intrusion dans leur vie quotidienne, de fouilles régulièrement, des cellules, ça a failli m'échapper, mais évidemment on essaye de leur piquer les documents, on essaye de les pister tout le temps, on remet en cause la validité de leurs documents, de leurs récits, etc. Donc cet échange qui a été extrêmement riche et très très même parfois éruptif entre les uns et les autres. Et également des quelques-uns qui étaient venus de Reims, qui sont venus à la suite du campement qui avait eu lieu à Croix-Rouge. Donc tout ça, ça a donné une très très bonne alchimie et des... Ouais, je sais pas.
Oui, je pense qu'on va pas jeter des fleurs, mais en fait, on est satisfait parce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait de manière pratique et puis de manière un petit peu politique, quoi. À savoir certains d'entre nous qui sont le plus impliqués dans la solidarité avec les migrants au quotidien, la solidarité juridique, ont essayé de donner des éléments et des informations sur les conditions, sur les méthodes, sur les moyens, puis de présenter leur démarche également, hein, une démarche qui est quand même un peu particulière, une démarche sans subventionnement, une démarche politique, une démarche non pas d'assistance mais de solidarité. Voilà, le nom, il est la différence, elle est extrêmement importante pour nous.
C'est le mot-clé de cette journée.
Tout à fait. Hein. Et puis, surtout, de démontrer par l'intervention, comme tu viens de le dire, de personnes qui partagent les mêmes problématiques et qui ont une histoire de lutte, les migrants, qu'ils soient mineurs ou pas, qu'ils soient isolés ou pas, c'est pas des sujets passifs. C'est des gens qui sont aussi capables de se prendre en charge. Et c'est pour ça que ça partait par des moments assembléistes, hein, où finalement, cette espèce de différenciation ou d'hierarchie qu'il peut y avoir entre celui qui sait, celui qui assiste et celui qui demande l'assistance qui est en termes de besoin, on la pète et on essaye justement de voir comment est-ce que ensemble on peut avancer.
Oui, alors, c'est ça, c'est la notion de il y a pas de nous et de vous, il y a nous et nous, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire on apprend les uns des autres et en plus proche d'égalité, quoi.
Et alors ça, je pense que ça a remis vraiment un coup au moral, un coup positif au moral et de la motivation chez tout le monde, hein, que ce soit chez les soutiens comme chez les migrants, quoi. Bon, alors effectivement les problèmes, ils ont été quand même assez identifiés. Il y a un problème de distance. C'est que les gens qui sont moteurs de cette démarche-là, qui semble-t-il pour le moment est très bien reçue chez les jeunes. Malheureusement, on est à Chalon, donc on va essayer de créer des outils pour pouvoir, on va dire, entretenir cette flamme-là, mais sur zone, sur place. Voilà. D'autre part, on s'est retrouvé également confronté à une diversité de situations juridiques.
Oui, alors ce qui était très 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 positif, c'est que plein de monde n'a pas hésité à, les gens ont présenté leur situation assez brièvement, l'analyse qu'ils faisaient de leur situation, leur résumé de récit d'histoire, et mais aussi de lutte, de combat, et immédiatement ils donnaient l'impulsion aux autres de faire de même, quoi. Il les incitait, effectivement, il les encourageait. C'est pas inciter, c'est encourager à. Et c'est vraiment passé, ça, parce que on a eu.
D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui se sont levés et qui ont parlé après.
Voilà,
sans problème. Hein. C'était vraiment. Les gens étaient en confiance. Ça, c'est évident, la confiance était là. Et l'échange était vraiment là, quoi. Alors, par contre, il y a un truc que je voudrais signaler tout de même, c'est qu'à mon avis, le conseil départemental de la Marne va avoir des problèmes. Hein, je pense que on va faire
sans
en
blague,
sorte qu'ils en aient.
Parce qu'ils perdent ils vont avoir un nouveau sénateur et ils vont perdre leur.
Ça, parce que bon, on s'aperçoit qu'il y a des pratiques qui sont intolérables. Il y a des papiers. Alors là, ça c'est aussi ceux qui gèrent le SAMI, hein, c'est-à-dire la hiérarchie de la sauvegarde, en particulier une certaine chef de service qui se permet de prendre, de fouiller les chambres, ça en a la preuve, qui se permet aussi de prendre des papiers, en particulier les papiers qui sont essentiels pour ces jeunes, c'est-à-dire leur certificat de naissance, qui paraît-il les perdent. C'est quand même des choses quand même qui sont lourdes, très lourdes.
Ah ben absolument.
Quant à l'ASE, là, on est étonné que finalement une certaine madame, je ne la citerai pas pour éviter tout problème au niveau judiciaire.
Mais non, t'es dans un pays où la liberté d'expression est totale.
Se permet, disons, de faire la chasse, c'est le cas de le dire, elle évalue, paraît-il, les jeunes, en fait, elle fait la chasse. Pour qu'il y en ait le moins possible.
Elle les évalue au pendule ?
et pour les éliminer le plus possible. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable tout de même, mais là, on va avoir, au niveau juridique, on va essayer de progresser. On va aller voir un avocat qui puisse voir un petit peu de ça à la source, parce qu'il y a quand même un truc qui est absolument aberrant. Un jeune qui est pris en charge par l'ASE n'a absolument pas de représentant légal en France. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va pouvoir véritablement l'aider quand il aura 18 ans et qu'il lui faudra une carte de séjour. Et ça, on s'aperçoit que la pratique est très simple du SAMI et du conseil départemental, c'est que juste avant d'avoir 18 ans, on le fout à la rue, on le fout dehors carrément. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des choses à dénoncer, il y a peut-être des choses juridiques à faire. Il y a l'ASE qui apparemment ne fait pas son boulot, de nommer un représentant légal, une personne physique qui représente le jeune et qui signe entre autres des papiers pour lui. C'est-à-dire entre autres quand le jeune veut faire un CFA, etc. Normalement, il doit être conseillé par l'ANON, bien au contraire.
Es-tu bien sûr que c'est l'ASE qui devrait nommer, ou est-ce que c'est pas le juge plutôt des tutelles?
L'ASE doit normalement s'adresser au juge des affaires familiales, le JAF. L'ASE doit s'adresser à ça. Peut-être aussi la préfecture, mais la préfecture le fait pas dans la Marne. À moins qu'ils aient un demandeur d'asile qui a 16-17 ans. Mmh. Mais ça, pour l'instant, on sait pas. On n'a pas d'exemple, hein. Peut-être que ça existe. Et là, ces gens-là doivent saisir le JAF. Et le JAF doit donner une personne physique comme représentant légal. C'est souvent quelqu'un qui est salarié à l'ASE, hein. Ah. C'est souvent quelqu'un qui est salarié à l'ASE, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être quelqu'un qui est aussi
proche qui peut être demandé ou recommandé par le jeune lui-même, quoi. Bien et sûr. Effectivement, il y a cette espèce de paradoxe où on a des éducateurs et un service d'assistance aux mineurs, alors à l'enfance normalement, qui conserve l'ensemble des documents, puisque normalement le mineur n'a pas accès à ces documents, il peut pas faire les démarches tout seul. C'est l'éducateur qui doit filer paplard. Ouais. Mais d'un autre côté, les démarches elles sont pas faites, ce qui fait que quand on arrive aux 17 ans et demi, 17 ans 8 mois, 17 ans 12 mois, ben il y a rien qui est fait et à 18 ans, on fout dehors. Donc en fait, on gagne du temps.
Oui, c'est clair. Oui.
C'est vraiment de la chronologie et de la gestion à la petite semaine, et surtout de la gestion au niveau du fric, quoi. Parce que il y a quelque chose qui est très bien fait de la part de l'ASE, du conseil départemental.
C'est l'ancienne DAS, hein, faut rappeler. C'est la DAS.
Oui, pour ceux qui auraient des expériences, hein, on change pas une équipe qui perd, hein, ça c'est clair. Il y a quelque chose qu'ils savent très très bien faire, hein, ça ils y passent beaucoup de temps, ils y mettent de l'énergie, du moyen, c'est la communication. Parce que on se rend compte que tous les mois, tous les deux mois, dans le canard local, ces derniers temps, à chaque moment, on a trois pages sur à la fois l'aide sociale à l'enfance d'une manière globale, ou spécifiquement sur la question des migrants ou des migrants jeunes. Et là, il y a une petite musique qui est en train de se mettre tout doucement en place, qui existe depuis un petit moment, mais qui est en train de commencer à arriver, qui est quand même assez forte dans le sens où on nous explique que la qualité de l'accueil, en gros, je caricature à peine, il faudrait pas que la qualité de l'accueil soit optimale, parce que ça encouragerait les gens à venir. Et déjà, on est dans des conditions assez hardes, parce que il y a les passeurs qui viennent et qui déposent les gens
à la porte
devant l'ASE, quoi.
Et j'aimerais bien qu'on en parle de ça plus précisément.
Créer des conditions d'accueil qui soient humaines, optimales, efficaces, ça alimente des filières.
Hein, ça c'est le discours de Monsieur Robinet, le premier magistrat qui n'étaye même pas ses sources. Quand on a la qualité de magistrat d'une ville et qu'on n'étaye pas ses sources, on dit il indique dans son commentaire, nous avons deux sources judiciaires. Mais qu'à cela ne tienne, qu'il les cite les sources vraies et précises et qu'on en débatte. Mais ça c'est du propos qui est digne de la propagande. Alors ça c'est un aspect par rapport au camp de Croix-Rouge où il y a eu une mise au point soi-disant faite par le premier élu à la suite de de questions qui ont été posées au conseil municipal, mais c'est pas tout, parce que quand tu dis il y a des petites musiques, il y a eu ces deux articles, il y a eu un article le vendredi dernier, donc le vendredi 29, où là le tempo, la petite musique, c'est et je regrette beaucoup de pas en avoir parlé à l'Assemblée, parce qu'on aurait pu faire un communiqué tous ensemble sur ce tissu incroyable.
Mais ça sert à rien de faire un communiqué.
Oui, non, mais au moins pour nous, au moins
ils s'en foutent, hein,
mais au moins le distribuer en lieu et place, c'est-à-dire à la là où il y a du personnel. Vous rendez compte que le personnel, là, le propos qui est tenu, c'est on ne travaille pas à la maison, au foyer de l'enfance. Le personnel du foyer de l'enfance est menacé de diverses maladies. Il est menacé de la tuberculose. Il y a eu des cas de tuberculose. Le personnel est menacé. C'est un syndicaliste FO qui est directeur du foyer de l'enfance qui
sort ses propos. Pour s'appuyer sur ce que tu dis, je cite, on ne peut pas accepter d'attraper la tuberculose au travail parce que les pouvoirs publics ne font pas le nécessaire pour examiner les jeunes migrants qui arrivent.
Voilà. Et donc, en décrétant que comme ils arrivent le 2 et qu'ils sont examinés eux-mêmes le 15, et bien entre-temps, la maladie a le temps de s'installer et de gagner du terrain. C'est absolument odieux. C'est vraiment le registre qui nous ramène à la...
De toute façon,
je rappuie
à l'époque, c'est quoi? C'est l'époque de l'exposition.
Pour donner l'ambiance, hein. Ils vont s'installer 2 semaines au milieu des autres jeunes avant d'être examinés médicalement, comme tu disais, et du personnel qu'ils auront tout le temps de contaminer.
Voilà.
Oui, on cite là, on n'est pas en train de... Alors, on va lui juste être hyper honnête intellectuellement, ça va nous changer. Connaissant la journaliste, c'est les propos qui sont relayés.
Ah oui.
Donc... On va lui laisser la prétention d'innocence comme tous avant de juger.
Et c'est pas tout au niveau des maladies, hein, ouais, je te signale.
Vu le canal qui est relayé, il est possible que ça soit aussi amplifié et déformé, puisque je continue. C'est un festival, hein, cette double page là, c'est énorme. Peu de migrants réfugiés politiques. Bah, oui, banane, c'est des mineurs. Tu fais de la politique à 16 ans, toi. Enfin,
là-dessus, il y a un truc à dire, si tu veux. Faut donner les chiffres. En 2016, il y a eu 10% des jeunes qui sont entrés en France, des jeunes mineurs, qui ont demandé l'asile. 10%. Et sur les 10%, il y en a les deux tiers, d'ailleurs, qui ont obtenu le statut. Mais, ce que ne dit pas l'article, c'est que dans la Marne, par exemple, comme ils n'ont pas de représentant légal, ces jeunes en question, ils ne risquent pas de demander l'asile. D'accord? Et à mon avis, il n'y a pas que dans le département de la Marne. Comment voulez-vous demander l'asile quand vous n'avez pas de représentant légal? C'est votre représentant légal qui doit le faire avec vous. De toute façon, c'est évident. Et là, de fait, comme il n'y en a pas, eh bien, ça se fait pas. Et effectivement, dans la Marne, d'ailleurs, j'ai eu la confirmation au guichet unique, on appelle ça le guichet unique, à Chalon, il n'y a pas de mineurs qui demandent l'asile. Déjà, le CADA ne prend pas les mineurs, c'est logique. Le CADA prend, donc le centre d'aide aux demandeurs d'asile, prend des gens majeurs, parce qu'effectivement, c'est à eux de signer les papiers et tout le bazar. Quand il n'y a pas de représentant légal, ils ne peuvent rien faire légalement, le CADA. Donc déjà, c'est dégueulasse au niveau du fond, hein, c'est évident, déjà. Ensuite, je voudrais dire une chose, c'est que si c'est évident qu'il y a des jeunes qui arrivent en France et qui sont porteurs de maladies, mais ça, c'est aussi à la France à régler le problème, non pas en 15 jours, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise en charge sanitaire qu'il faudrait prendre immédiatement pour effectivement faire en sorte de soigner ces jeunes qui arrivent et qui sont porteurs de la tuberculose.
Alors, je dirais, Denis, quand même, la tuberculose, elle a progressé aussi sur France, le territoire bien européen, bien sûr, en France, et ça depuis un certain nombre d'années, dans un certain nombre de quartiers où il y a de la promiscuité au niveau sanitaire et tout ça, de la pauvreté.
Donc il y a une espèce de maladie de pauvres, point.
Voilà. Oui. Il cite également la tuberculose, il cite également le sida, il y aurait un cas de sida, et il cite également l'hépatite.
Ouais.
Alors et donc à ce propos, ils disent on va rapidement supprimer les étages où il y a mixité. On va supprimer la mixité. Et on va cloisonner, on va faire un cloisonnement avec les, justement, les mineurs isolés, ceux qui vont avoir le statut, vont rejoindre ceux qui n'ont pas le statut, mais qui sont quand même cloisonnés. Ça, c'est des travaux qui vont être entrepris très prochainement. Bon.
Ah, mais moi, je voulais appuyer aussi d'autres choses. Alors, reciter pour vous donner un peu quand même la qualité de la formation que les Rémois et que les Marnais sont susceptibles d'avoir sur cette question qui est extrêmement complexe et qui recouvre des thématiques qui sont quand même des thématiques internationales, des enjeux nationaux, européens, hein. Alors voilà, hein, il y a là-dessus, hein, on a effectivement le risque de suivi médical et le risque de santé médicale. Merci et faux. On dit souvent qu'on n'a pas besoin d'un syndicat FN police ou FN travailleurs sociaux, c'est pas la peine, il y a déjà EFO. Dans la partie là, quand même, parce qu'il faut quand même un encadré puis un autre point, on se dit que on a tout vu. Eh ben non, il manque des choses. Alors, je cite, hein, pour dire un peu quand même la personne qui écrit comment elle est tournée, c'est quoi la ligne éditrice. Au nom de directeur des foyers de Chalon et Reims, 95% des jeunes qui arrivent sont des migrants économiques. Leur but est de venir toucher de l'argent pour le renvoyer au pays. Seule une minorité profite du système. Certains sont là pour faire leur scolarité en France. J'ai par exemple un fils de diplomate qui est envoyé pour faire ses études. Il a très de bonnes notes à l'école. Alors, c'est là que vous vous rendez compte que seule une minorité profite du système. En général, quand ils disent ça, c'est pour les dénoncer. Oui, il y a une minorité qui profite du système, mais l'ensemble des gens sont sympas. Eh ben non ! Là, la journaliste, elle écrit « Seule une minorité profite du système », parce que ça veut dire que c'est les gens qui bénéficient des droits auxquels ils ont droit. Ah, c'est formidable ! Donc ça, c'est une minorité qui profite du système. Alors, et après, elle écrit « J'ai par exemple un fils de diplomate qui a été envoyé pour faire ses études. Il a très de bonnes notes à l'école. » Ben, tu m'étonnes, banane ! Le mec, il était déjà bourge avant. Donc forcément, ça marche mieux pour lui. Ah, il n'y a pas de problème de classe sociale. C'est incroyable.
C'est incroyable.
Et alors, quand même, cerise sur le gâteau, histoire quand même d'enfoncer, hein, sur des gens qui sont peut-être en souffrance, c'est pas des victimes. On n'est pas en train de dire que c'est des victimes, mais les situations, elles sont pas simples. Il y a des parcours, quand même. Il y a des choses. Et ben, bam! T'es pas content. On t'en remet une couche. Quatre phrases. Impossible risque d'infiltration. Non, non, c'est pas de la flotte, hein. C'est pas les problèmes sanitaires. C'est pas les problèmes de salle de bain. Les jeunes migrants qui n'y arrivent ne sont pas des délinquants. Ah, bravo. Ils ne sont pas non plus des terroristes en puissance, mais le risque d'infiltration n'est pas exclu. Nous avons en effet quelques jeunes assez radicaux, constate Monsieur Anthropus. Il faut espérer que rien de fâcheux ne se produise. Ah ben ça, quand même.
Mais il a une analyse, je sais pas, il a peut-être fait Saint-Cyr, voilà. Hein,
quatre phrases.
Ou l'armée à Chalon, je sais pas.
Alors déjà, les mecs, enfin franchement, faudrait quand même un jour qu'il y ait des gens qui puissent rendre compte de ce qu'ils écrivent. Malheureusement, voilà, on peut écrire des choses comme ça. Enfin bon. Voilà.
Et alors donc, ce qui est renforcé par en exergue le propos du sénateur, du nouveau sénateur, hein, d'un grand électeur qui était président ou qui est peut-être encore président du Conseil général de la Marne.
Enfin, il n'est plus pour longtemps.
Donc on lui pose la question. Cette situation est un scandale. Êtes-vous au courant que de la situation dans les foyers de l'enfance de votre département à Chalon et à Reims? Bien entendu, je suis à 100% du côté du personnel qui colmate les brèches. Donc, sauf que le personnel, effectivement, on peut quand même le dire, on l'a cité assez souvent, à Chalon, au SAMI, 4 éducateurs pour 73 jeunes. Peut-être qu'il y en a 5 aujourd'hui.
Ouais. Hein,
peut-être qu'il y en a 5 aujourd'hui. Toujours pas de psychologue. Toujours pas de veilleur de nuit. Bon, on peut quand même s'interroger, hein, sur la volonté de mettre effectivement les moyens humains. Et alors après, ils se plaignent que les éducateurs ne peuvent pas faire leur travail. Pourtant, ils sont compétents, hein, ils ont vraiment la formation de spécialistes pour ça. Mais ils sont obligés de faire de l'hôtellerie. Ben, c'est triste, hein, quand même. On devrait se cotiser. Et alors, il ajoute, on va remédier au problème de logement. Ah si, non, pardon, j'oublie un truc important. C'est qu'il revient sur la vulgate. Dans un contexte de le plus en plus difficile, la filière est telle que les passeurs nous déposent carrément des jeunes, ça tu l'avais dit,
au pied des foyers.
C'est...
Ils sonnent, hein, les mecs. Hein. Ils sonnent.
Formidable.
Ils
sonnent, hein,
bonjour, je suis
passeur. Lourd, hein, c'est du lourd.
J'ai trois jeunes, quoi.
Alors, on va peut-être arrêter là, parce qu'on a autre chose dans la deuxième partie. Par contre, on y reviendra.
Oui, bien sûr qu'on y reviendra.
Puisqu'il y a eu des interviews qui ont été faites, il y a eu des prises de son qui ont été données, il y a un travail qui se fait actuellement, en particulier par et les deux copines qui étaient de Radio Primitive qui étaient là. On va pouvoir peut-être la semaine prochaine faire une émission là-dessus encore et toujours. Je crois que c'est important.
Et puis on peut dire que le comité d'Nkosi-Soko se réunit tous les jeudis à 18h30 à la maison des syndicats, quoi. Si c'est la première fois que vous venez, venez un peu avant quand même, qu'on puisse faire connaissance et vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, quoi. Mais voilà, que ça va continuer et que on va essayer d'amplifier et de pérenniser ce début de choses qui est très extrêmement intéressante, quoi. Je me tais parce qu'il a envie d'écouter Zabreski Point, donc on va y aller. Alors, change de sujet totalement. La semaine dernière se déroulait un procès dont on avait touché quelques mots au cours des dernières émissions. Un procès qui démontre la capacité et la célérité de la justice à s'organiser et à traiter les affaires judiciaires quand ça l'intéresse, hein, puisque il s'agissait du procès qu'on a qualifié des inculpés du quai de Valmy, en l'occurrence de l'incendie d'une voiture de police qui avait eu lieu lors d'une contre-manifestation. Le 18 juin
le 18 mai, pardon.
18 mai 2016.
Ouais, il y a deux. Le 18 mai 2016 est organisée une manifestation contre la haine anti-flic place de la République à Paris. Après l'expulsion de cette place de la République de l'initiative de Nuit Debout, hein, c'est important. On a là la réaffirmation et la réoccupation de la place par les flics et le syndicat Alliance, qui tente assez minablement de récupérer les manifestations sauvages de flics qui avaient eu lieu quelques semaines auparavant. Donc il y a un petit peu le feu à la maison Alliance. Donc Alliance essaye un petit peu de montrer que Alliance est un syndicat de flics. Hein. Et tout de suite, une contre-manifestation va être organisée. Et à l'occasion de cette contre-manifestation pour expliquer que non, il n'y a pas de haine anti-flic d'une part, et que le sentiment de défiance vis-à-vis de la police par l'intermédiaire des manifestants et des gens dans les classes populaires et chez les migrants qui ont à subir les actions quotidiennes de la police, il se base sur des éléments tangibles qui sont les meurtres, les violences, les insultes, la dégradation et l'humiliation quotidienne qu'on peut ressentir et subir quand on a affaire à ce type d'individus. Donc c'est ni ce n'est ni de la haine qui serait irrationnelle, ni un sentiment de défiance qui serait une pause, c'est simplement le résultat de pratiques policières accumulées au cours d'années et d'années. Et un jour, on aimerait bien entendre des policiers être capables de dénoncer les pratiques de leurs collègues le jour où on aura des flics qui condamneront avec force, avec autant de force, les pratiques de leurs collègues violences dont ils font l'objet. À ce moment-là, peut-être ils auront le droit au respect, mais pour le moment, c'est non, encore non.
Ce jour-là sera peut-être le jour de la libération, point d'orgue d'une longue résistance où certains se seront trouvés la sensibilité de résistant comme la libération.
Ouais. Alors voilà, donc il y a eu cette voiture de police qui a été incendiée. Il y a eu un immense buzz médiatique qui a été fait là-dessus, puisque on a parlé de cocktail Molotov, de tentative de meurtre, d'homicide, du grand n'importe quoi évidemment. Bonjour les journalistes, hein, vous ne savez pas pourquoi après vous n'êtes pas admis dans les cortèges. Il y avait absolument pas de cocktail Molotov. La tentative d'homicide, elle a été requalifiée en violence volontaire en réunion et en groupement formé en vue de commettre des violences. Et donc la semaine dernière se déroulait le procès des neuf personnes, il y en a neuf en tout, qui avaient été interpellées et pour certains d'entre eux incarcérés pendant plus d'un an et qui sont encore incarcérés. Pendant 4 jours, donc il y a eu un procès assez hallucinant, quoi, très très lourd de tensions, énormément de tensions, et il y a eu les réquisitions qui sont sorties il y a quelques jours. C'est pas les réquisitions qui vont calmer l'affaire, qui vont apaiser les tensions, puisque les réquisitions sont extrêmement lourdes. En l'occurrence, on va de 8 ans de prison, dont 5 fermes, à 1 an de prison avec sursis pour des coups de pied contre une voiture de police. C'est même pas des dégradations, hein, des coups de pied, hein. Et 5 ans pour le principal accusé, celui qui a 8 ans, celui contre lequel est requis 8 ans et en fuite, hein. C'est un citoyen suisse, il est actuellement recherché, il y a une demande d'une mention Interpol. On était du délire, quoi. Un Interpol, quoi, pour un manifestant. Et alors le procès, ça a été du grand n'importe quoi. Donc on a eu évidemment l'association des victimes policières qui s'est lâchée, quoi, hein, avec des individus qui, c'est terrible, n'arrivent plus à dormir, ont cru qu'ils allaient mourir. Faut changer de métier, hein, faut leur dire, hein, attention, hein, c'est un travail qui peut être parfois dangereux. Et ben oui, on leur avait pas dit quand ils avaient signé, hein, mais c'était en bas, donc voilà. On a des gens qui sont suivis par bon, alors les sommes réclamées,
il y a aussi des gens qui étaient accusés et qui en fait ont prouvé qu'ils étaient en Irlande ou en Écosse ce jour-là.
Alors ça c'était auparavant. Il va revenir, hein, on va écouter l'interview, ouais, d'un des principales concernés. Okay. On va voir que en fait et on y reviendra de toute façon, puisque l'interview est trop longue pour qu'on la passe d'un seul coup, on y reviendra que en fait on s'aperçoit qu'il s'agit d'une véritable vengeance, quoi. Et simplement une vengeance qui est à la fois policière et judiciaire, parce qu'on a eu que ça à se mettre sous la main, comme d'habitude, mais surtout une vengeance qui est une espèce de rapport de force et de d'embrouille qu'il y a à Paris entre, d'une part, ce qu'on appelait avant le GREG, le groupe de recherche et d'enquête sur l'extrême gauche. Donc c'est les renseignements de la préfecture de police de Paris, qui aujourd'hui s'appelle la DEREP, hein, je crois, et un groupe que les médias qualifient d'antifa, mais qui est en fait un collectif qui s'appelle l'Action Antifasciste Paris Banlieue, qui est un collectif politique, qu'on le veuille ou non, qui a des méthodes, des principes et des actions politiques. Antonin en parlera un moment dans le truc, qui est sous l'œil du GREG, pardon, des renseignements de la préfecture de police et des flics depuis un petit moment. Et les flics attendaient de se les faire, entre guillemets, si vous me permettez la trivialité de cette expression. Alors, visiblement, on n'a plus d'ultra-gauche autonome, hein, il nous faut toujours un ennemi, il nous faut toujours quelque chose pour alimenter et le cirque, le manège, et là ils en ont trouvé. Et bon, alors après, le problème c'est qu'il faut faire un dossier quand même quand on va aux justices. Et alors là, on a eu un grand festival, puisque celui qui contre lequel est requis 50 prisons, qui en a déjà fait un, donc 4 fermes, a été reconnu, c'est énorme, par son caleçon, ses baskets et les cernes qu'il a sous les yeux. Voilà. Voilà,
et
aujourd'hui,
moi, je voulais te demander,
est-ce que
tu peux nous préciser de quelle manière la voiture s'est enflammée?
Ah oui, par un fumigène.
Voilà.
Pardon, excuse-moi,
parce
oui,
que
c'est important de le préciser.
Tu disais que c'était
et surtout, alors ça, c'est pour le joke, hein, le caleçon, la couleur du caleçon. Est-ce que nous, on aura le droit de voir les couleurs des caleçons des flics quand ils sont cagoulés et qui manifestent de manière illégale dans Paris? Je ne suis pas sûr.
Mais les brigades fantômes, on peut pas voir leurs caleçons quand ils tuent des gens en manif à Sivens ou ailleurs.
Plus sérieusement, il y a quand même un truc qui passe, qui est quand même un élément de la loi antiterro et de la loi sur les flics qui est passé au mois de janvier. La principale charge, quand même, c'est le témoignage anonyme d'un flic surnommé T142, c'est le matricule, d'un flic qui est infiltré dans le groupement de manifestation, un flic de la direction des renseignements de la police de Paris, de la préfecture de police de Paris, et qui témoigne anonymement de sa connaissance et de sa reconnaissance des individus qui étaient là. Individus, sur les images, évidemment, vous les avez vus, hein, si vous intéressez un peu au truc, ils sont tous masqués et cagoulés, mais Superflic a réussi évidemment à reconnaître les individus, mais Superflic n'est pas très courageux, puisque Superflic, grâce aux nouveaux alinéas de la loi, a le droit de témoigner anonymement, sans se présenter à la barre, et que, comme il est assermenté, évidemment, son témoignage vaut pesant d'or.
Ça va tenir, ça, juridiquement?
Évidemment, ça a tenu, puisque je te rappelle qu'à Villiers-le-Bel, il y a des informateurs qui avaient été rémunérés, et il y a des gens qui ont fait 8 ans de prison pour ça, et que, comme maintenant c'est dans la loi, et que la justice, elle est pas là pour discuter si c'est bien fondé ou pas, elle applique la loi, et ben voilà, son témoignage T142, et ben, il permet à des gens de passer des mois et des mois en tôle. Peut-être que d'ici quelques dizaines d'années, on apprendra que T142 c'est une blague ou quelque chose d'autre. C'est pas grave, il y aura des gens qui auront été détruits, il y aura des gens qui auront subi la vindicte populaire, etc., etc. Puisque, par contre, pour les gens qui sont présumés innocents, hein, évidemment, puisqu'ils n'ont pas encore été condamnés, eux, il n'y a pas le droit à l'anonymat, hein. C'est le nom qui est étalé depuis 4 jours, depuis même plus, dans les journaux, et on sait très bien que Antonin Bernanos, c'est l'arrière-petit-fils de l'écrivain Bernanos, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça soit l'arrière-petit-fils de l'écrivain Bernanos? Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'il a fait 1 an de prison pour rien, et que là, il en risque 4, et que il se défend farouchement, et qu'il le dit, lui, en tant que militant politique, s'il avait fait des trucs, qui les assumerait, c'est pas un problème pour lui, la violence. Alors justement, on va essayer d'éviter de parler à sa place, et on va écouter Antonin, qui a donné une interview, une longue interview d'une heure. On va écouter la première partie, on va écouter un quart d'heure, c'est pas grave, on aura l'occasion d'y revenir, puisque il y aura le délibéré, et puis on aura d'autres émissions pour écouter ça, et si vous voulez l'entendre, on vous la fournira, enfin bon, peu importe, on va écouter ce que Antonin a à nous dire là-dessus, quoi, voilà.
Alors, Antonin, vous êtes étudiant en sociologie et vous venez de faire 10 mois de prison dans le cadre de l'affaire dite de la voiture de police brûlée. C'était en mai 2016, quai de Valmy. C'est une affaire dans laquelle aucune preuve formelle n'a pu être trouvée contre vous, ce qui ne vous a pas empêché d'être incarcéré pendant 10 mois sur la base de notes du renseignement qui vous identifiait comme un militant antifasciste impliqué dans les mobilisations contre la loi travail. Alors, votre cas semble emblématique des prérogatives de la répression dans le cadre de l'état d'urgence, prérogatives qui permettent aux autorités de police ou du renseignement de désigner un coupable et de charger ensuite la justice d'en produire les preuves, qui permet donc d'obtenir l'incarcération d'un jeune militant pendant presque un an sur un dossier pourtant complètement vide. Alors, après 10 mois de détention provisoire, vous êtes actuellement dans l'attente de votre procès qui se déroulera du 19 au 22 septembre, procès qui concerne d'autres protagonistes, eux aussi mis en cause dans le cadre de l'affaire de la voiture de police brûlée. Affaire qu'on va évidemment résumer brièvement pour ceux de nos abonnés qui ne s'en souviendraient pas ou qui n'en auraient pas eu connaissance. Cette affaire, donc, ça se passe le 18 mai 2016, place de la République. On est en plein cœur du mouvement Nuit Debout et la police organise une manifestation place de la République pour protester contre la haine anti-flic. Cette manifestation policière reçoit le soutien de nombreuses personnalités de la droite extrême et elle est perçue par les activistes de Nuit Debout comme une provocation, place de la République, sur la place forte de Nuit Debout. Une provocation à laquelle s'oppose très vite une contre-manifestation. Contre-manifestation qui essaie de s'installer place de la République, mais elle fait l'objet d'une interdiction de la préfecture 3 quarts d'heure après son commencement. Se forme alors un cortège qui s'improvise, qui prend un parcours adjacent par la rue Beaurepaire, puis par le quai de Valmy. Et ce cortège de contre-manifestants croise le parcours d'une voiture de police. La voiture est immobilisée par la foule, elle est prise à partie, certaines vitres du véhicule sont brisées et un projectile est lancé dans l'habitacle. Il s'agit d'un feu à main pour bateau, un feu de détresse en fait, qui est plongé dans l'habitacle du véhicule, contraignant les policiers à quitter le véhicule. L'un des policiers est évacué accompagné par la foule, l'autre policier a une brève altercation avec l'un des manifestants. À l'issue de cet événement, aucune blessure sérieuse n'est à déplorer, ce qui n'empêchera pas les autorités de monter cette affaire en épingle, puisque quelques minutes après les faits, les syndicats de police parlent d'une tentative d'assassinat et le gouvernement promet des sanctions exemplaires. Sanctions exemplaires dont votre incarcération semble être une traduction éloquente, puisque donc quelques heures après les faits, vous êtes arrêté à votre domicile par la police. Alors, première question, pourquoi ça tombe sur vous ?
Pourquoi ça tombe sur moi, ou enfin plutôt sur nous, puisque initialement on est 4 personnes interpellées quelques heures après les faits. Ça tombe sur nous parce que on est au beau milieu d'un mouvement conflictuel radical et qui se prolonge dans la durée au milieu du printemps 2016, qui est le mouvement contre la loi travail. Un mouvement qui déborde la plupart des cadres existants et un mouvement qui était inattendu de la part de ceux qui y participent, mais aussi de la part de ceux qui gouvernaient à l'époque et qui faisaient passer la loi travail. Et à l'intérieur de ce mouvement, s'organisaient différentes franges de la jeunesse, au sein de différentes franges du mouvement d'ailleurs, et s'organisaient justement en confrontation directe avec différentes institutions, différents types de domination qui dépassaient, ce que je veux dire par là, c'est que ça dépassait de loin le cadre de la loi travail. Mmh. Et il a fallu à un moment... donner un message fort pour stopper cette jeunesse-là, mmh. En tout cas une frange pour tenter de la stopper. Et le gouvernement, plutôt le pouvoir exécutif, oui, la préfecture de police de Paris, a distribué des dizaines d'interdictions de manifester deux jours avant le 18 mai, le 16 mai du coup, mmh. Concernant les manifestations du 17 et du 18 mai, pour tenter justement de stopper une certaine partie de la jeunesse, en espérant mmh. aussi endiguer les violences dans les manifestations, ce qui est ce fameux mythe de arrêter des petits groupes organisateurs dans des actions de masse largement spontanées. Mmh. Et donc des dizaines d'interdictions de manifestation sont distribuées, Et ces interdictions de manifester vont être en fait portées face à la justice. C'est-à-dire qu'on va mobiliser des avocats pour les porter face à la justice.
Mais donc, dans l'immédiat, c'est-à-dire que ces interdictions, elles tombent le 16 et vous les portez immédiatement, vous protestez contre le tribunal administratif ?
Elles tombent le 16 et le 17, on est devant les tribunaux. Le lendemain, on est devant les tribunaux avec des avocats et avec des camarades qui, tout comme moi, et deux autres personnes qui ont été également arrêtées dans le cadre de cette affaire, décidons de la porter devant les tribunaux. On va donc devant le tribunal et on découvre que ces interdictions de manifester sont basées sur des notes blanches, qui sont des notes produites de toutes pièces par les services de renseignement, en l'occurrence la DRPP, la Direction de renseignement de la préfecture de Paris, qui écrit, produit un discours sur des personnes sans que ce soit demandé par la justice ni contrôlé par aucun juge et parti. C'est juste ce service de renseignement qui produit des notes blanches. Notes blanches que dans notre défense, on a pu prouver qu'elles étaient totalement fausses, parce que pour certaines personnes, elles impliquaient leur présence à des manifestations alors qu'elles étaient à plusieurs centaines de kilomètres. Pour d'autres, des arrestations.
En le prouvant avec des visas et des billets d'avion, c'est vraiment rocambolesque. Ouais. On a l'impression que c'est des pieds nickelés qui font du renseignement, qui inventent, qui affabulent complètement, qui veulent croire ou faire croire à une présence d'un manifestant à un endroit, alors que à ce moment-là, le manifestant peut prouver qu'il était à l'étranger avec des visas et des billets d'avion. Hein. Mmh. C'est un des éléments du dossier qui est comme ça.
Ouais, exactement. Et ça, c'est une première défaite pour le pouvoir exécutif.
Oui, puisque donc le tribunal administratif, à ce moment-là, décide de...
De rejeter les interdictions.
Lever les interdictions de manifester. Et donc, il désavoue le renseignement et la valeur juridique des notes blanches.
Exactement, oui. Qui sont, en théorie, valables juridiquement dans le cadre de l'état d'urgence. Et donc là, on a un magistrat qui se positionne différemment en disant que l'état d'urgence n'est pas censé être applicable pour tout un chacun, mais bien pour certaines personnes, et donc qui va à l'encontre de ce qui est juridiquement possible. Ce qui se passe donc par la suite, c'est que les personnes présentes et qui ont présenté ce recours vont en manifestation, la manifestation du 17. Puis le lendemain, la manifestation du 18 dont vous avez déjà parlé, sur laquelle on reviendra peut-être dans les détails, participe à cette manifestation pendant laquelle effectivement cette voiture de police est prise à partie par la foule et prend feu. Et au cours de laquelle on va voir une espèce d'élan médiatique et de relais médiatique très important et déferlement de différentes positions politiques antagonistes au mouvement au sein des médias de masse.
Oui, c'est l'occasion de dénoncer la violence aveugle des casseurs, des hordes sauvages, enfin d'essayer de retourner le mouvement, de retourner l'opinion contre le mouvement de Nuit Debout et du reste de la jeunesse mobilisée en les faisant passer pour des voyous très dangereux.
Oui, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion justement de décrédibiliser le mouvement social dans son ensemble et pas uniquement certaines franges du mouvement. Donc cette occasion, elle est reprise et de fil en aiguille, avec les pressions des syndicats de police et avec cette espèce de déferlement dont on parlait à l'instant, il y a une affaire qui se monte. Il y a une procédure qui se monte dans les heures qui suivent, dans la panique, une procédure criminelle pour des chefs d'inculpation de tentative d'homicide volontaire et d'association de malfaiteurs. Et dans les heures qui suivent, moi et trois autres personnes, on va être interpellés.
Les autres personnes étaient elles aussi concernées par les interdictions de manifester qui ont été levées par le tribunal administratif ?
Sur ces quatre premières personnes, parce qu'il y en a d'autres par la suite qui ont une histoire totalement différente, sur ces quatre premières personnes, trois d'entre elles étaient effectivement concernées par ces interdictions de manifester.
Ça ressemble un peu, pardon de plaquer une interprétation, à une forme de représailles de la part du renseignement, des services de renseignement, qui seraient extrêmement vexés d'avoir vu leur note blanche désavouée par le tribunal administratif et qui pourraient s'être dit, on va les choper ceux-là. Ah, ils ont fait tomber notre interdiction de manifester, eh ben, ils vont payer. On va leur mettre sur le dos l'affaire de la voiture de police brûlée. On va faire une grosse accusation pour tentative d'homicide. Enfin, on pourrait penser à une forme de représailles d'un service de renseignement vexé d'avoir été désavoué.
Ouais, tout à fait. Je pense d'ailleurs même que c'est les prémices d'une forme de vengeance d'État qui va se prolonger sur toute la suite de l'affaire. Mais c'est effectivement la façon dont on peut voir les choses, dans la mesure où ces notes blanches Elles sont produites par ce service de renseignement qui est la DRPP, qui avait produit ce renseignement qui avait ces notes blanches qui ont donc échoué à porter des interdictions de manifester. Et cette forme justement de contre-coup, de revanche ou de vengeance justement de la part de ce service de police et du pouvoir exécutif justement en l'occurrence, elle se prolonge aussi dans la structure du dossier. C'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure, sans preuve formelle, effectivement, oui, c'est sans preuve formelle dans la mesure où nous, notre arrestation aux quatre personnes initialement arrêtées, elle se base donc sur un renseignement anonyme délivré à ce service de renseignement, la DRPP, qui s'appuie sur les mêmes notes blanches qui ont été utilisées la veille face au tribunal.
Et qui ont donc été désavouées.
Et qui permettent notre interpellation. Seulement, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très insuffisant pour pouvoir garder des personnes en garde à vue. Et un peu moins de 24 heures plus tard, un premier élément de preuve, si on peut dire ça comme ça, est déposé au commissariat de police à la deuxième DPJ, où on est gardé à vue. Et cet élément de preuve, c'est un témoignage anonyme qui vient incriminer spécifiquement les quatre personnes que nous sommes déjà présente en garde à vue. Et ce témoignage anonyme, qui est déposé donc 24 heures après notre arrestation, va s'avérer par la suite, à la suite d'une erreur de la juge d'instruction, ou en tout cas d'individus proches de la justice, on ne sait pas exactement qui, que un procès-verbal va être laissé par une adversance dans le dossier.
Révélant l'identité. C'est ça. Témoin.
L'identité du témoin anonyme qui s'avère être un policier des services de renseignement et en plus du même service de renseignement, la DRPP, qui a produit les notes blanches.
Ouais.
Et donc, voilà sur quoi se base initialement le dossier. Sur un renseignement, puis sur un renseignement anonyme, des notes blanches. Et en fait, là, on voit bien qu'il y a une stratégie de la part de la police qui ont créé des coupables idéaux, clairement, qui ont créé des éléments de preuve, falsifié différentes notes, en l'occurrence les notes blanches, pour créer des coupables idéaux à servir à la justice, qui par la suite aura le travail de produire le récit, ce qui est normalement la tâche des services de police. Et ça, je pense que c'est essentiel justement pour comprendre cette affaire, que nous par la suite on a appelé une enquête à l'envers, dans la mesure où on est parti d'abord de coupables, pour remonter vers des preuves, alors qu'en théorie, dans les affaires plus traditionnelles, on part de preuves, on part d'indices pour arriver à des preuves et remonter vers des coupables.
Donc, raison pour laquelle on peut dire qu'il n'y a pas de preuves, en réalité, dans cette affaire qui vous incrimine personnellement, puisque la seule preuve, entre guillemets, qui vous incrimine, c'est ce témoignage donc d'un policier, en fait, qui aurait été infiltré. D'après son témoignage, en fait, c'est un flic infiltré dans les mobilisations plus ou moins spontanées et qui prétend faire un récit très très détaillé de ce qu'il a vu sur place. Apparemment, il aurait été sur place et il prétend reconnaître tel et tel individu, donc vous, les uns et les autres incriminés dans cette affaire, et il prétend donner une description extrêmement précise des gestes et même de détails vestimentaires des uns et des autres. Et c'est sur cette base-là, finalement, que ce seul témoignage que vous allez faire dix mois de prison. J'imagine que, évidemment, vous déposez des recours, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en vocabulaire juridique, vous essayez d'obtenir la levée de cette détention provisoire.
Ouais, alors c'est encore plus compliqué que ça. Je suis avec quatre personnes, initialement, dont mon petit frère et deux camarades. On se retrouve tous en détention, dans un premier temps, dans une espèce de sas d'attente, on va dire, qui est, j'ai plus le nom juridique en tête, mais on doit être présenté à un juge des libertés, de la détention et de la liberté, un JLD. Et au lieu d'être présenté directement face au juge, nos avocats décident de laisser tomber un peu la pression et d'attendre 3 jours pour qu'on soit présenté. Ça veut dire qu'on va tous être envoyés en prison pendant 3 jours.
Mais ça, c'est la démarche de vos avocats, pour le coup.
C'est la démarche de nos avocats. On est envoyé en prison sur demande de la juge d'instruction, on est envoyé en prison pendant 3 jours. Avant de voir la fameuse JLD. Et quand on arrive face à cette JLD, La première décision, c'est qu'elle garde mon petit frère en détention provisoire et qu'elle me libère moi et les deux autres camarades. Donc le 21 mai, un peu plus tard, mais dans ces eaux-là, Angèle, mon petit frère, est en détention et nous, on est en liberté. Et
là, vous êtes vraiment remis en liberté complètement.
La juge des libertés considère qu'il n'y a pas d'éléments assez probants pour nous garder en détention, hormis pour mon petit frère, qui aurait une veste qui aurait été saisie, qui serait similaire en tout point à celle de l'agresseur.
D'accord, telle qu'elle est reconnue sur les vidéos, parce qu'il y a énormément de vidéos. Donc là, j'imagine que ce n'est pas le témoignage anonyme là, qui permet de constituer la preuve, c'est les traces vidéo qui ont permis de reconstituer la scène, les traces vidéo de la scène de la voiture brûlée.
Oui, sur la base du témoignage anonyme. C'est-à-dire, sur la base du témoignage anonyme, on arrête des personnes et on fait correspondre ces personnes à certains personnages à la suite en analysant les vidéos.
D'accord.
Et donc là, on se retrouve à trois en liberté et mon petit frère en détention. On va tous faire appel... Enfin, nous, on va pas faire appel de la décision, mais le parquet va évidemment faire immédiatement appel de la décision de remise en liberté pour les trois premières personnes.
Alors, faut rappeler... C'est quoi le parquet ? Qu'est-ce que représente le parquet dans le système juridique ? Il est sous quelle tutelle ?
Bah, le parquet, c'est l'État, tout simplement. C'est-à-dire que le parquet, c'est le représentant immédiat et officiel de l'État au sein de l'institution judiciaire. Et le parquet, qui est représenté par des procureurs, demande des peines, réclame que justice soit faite au nom de l'État. Et donc, on a le parquet là qui fait appel... de la décision de remise en liberté pour les trois premières personnes et nous qui faisons appel de la décision d'incarcération pour mon frère.
D'accord.
Et quelques jours plus tard, on va tous être présentés face à la cour d'appel. Donc moi, je vais m'y rendre libre et je ressortirai pas.
D'accord.
La cour d'appel prendra la décision de maintenir mon petit frère en détention, qui restera pendant 42 jours en prison, et de me replacer derrière les barreaux à Fleury-Mérogis, où je resterai pendant 10 mois. 10 mois pendant lesquels, justement, il y a une bataille judiciaire qui va s'engager, dans la mesure où on avait déjà une juge qui avait dit « Bah non, il n'y a pas d'éléments probants, il n'y a pas assez d'éléments pour le mettre en prison, c'est pas possible de détruire la vie d'un jeune garçon juste parce qu'on a un témoignage qui l'implique dans des faits et pas de preuves à l'appui. » Et là, on va rentrer dans une espèce de bataille judiciaire au cours desquelles on va poser plusieurs demandes de mise en liberté, plusieurs DML, qui pour la plupart vont toutes être acceptées par
les juges,
compétents pour juger de ces demandes de mise en liberté, et des demandes de mise en liberté qui systématiquement vont être rejetées par la cour d'appel suite à l'appel du parquet qui continue, donc l'État qui continue encore une fois à s'acharner.
Allez, on va se quitter puisque je crois qu'on y reviendra la semaine prochaine. Sur cette histoire du quai de Valmy. On verra bien évidemment aussi sur ce qui s'est passé ce week-end, samedi, à l'AEFTI, mais aussi dans un centre social de la ville de Reims. La maison de quartier exactement.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Derrick Gore. Chaque semaine, je suis Nicolas Garrigue à Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, à Local, à Saint-Girons, et bien évidemment, Radio Primitive, où est réalisée cette